Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 mars 2016 en direct de Washington, Bagassi Koura et Michel Joseph. Voici les titres.
Au Niger, l'opposition exige la libération de Ama Amadou afin qu'il puisse battre campagne pour le second tour de la présidentielle qui va l'opposer au président sortant Issoufou Mahamadou.
Nous avons dit à Issoufou Mahamadou, il n'a qu'à libérer Ama pour l'affronter corps à corps, en homme, homme à homme. Pourtant, ils ont peur. Ils savent que nous allons les battre, plaisir à eux.
Voilà, John Kerry a rendu hier un hommage appuyé à Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition centrafricaine, qui effectue en ce moment une visite aux États-Unis.
La naturalisation de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire donne une image triste du pays, selon l'opposant Afin Guessan.
Quelques heures à peine après de nouvelles sanctions, la Corée du Nord a tiré ce jeudi des missiles à courte portée au large de ses côtes orientales.
Et dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Niger, les responsables de l'opposition politique exigent la libération de Ama Amadou afin qu'il puisse battre campagne à partir du week-end prochain pour le deuxième tour de la présidentielle qui va l'opposer au président sortant Issoufou Mahamadou. Ils ont posé cette exigence à la suite d'une visite à l'ancien président de l'Assemblée nationale dans sa prison à Filenge, à environ 200 km de la capitale Niamey. Écoutons Ousseini Salatou, il est porte-parole de la coalition pour l'alternance au Niger, au micro de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Ham est un prisonnier politique du président Issoufou Mahamadou. Le président Ham nous a informé qu'il a fait une demande de liberté provisoire, qui a été déposée depuis le lundi. Mais déjà, le dilatoire a commencé, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de session avant le 14, à une semaine du second tour. Alors que partout, ils ont chanté sur toutes les zones, devant les partenaires, devant les ambassadeurs, que c'est parce que Ham a dit qu'il n'a pas déposé de demande. Ham, aujourd'hui, a déposé une demande de liberté provisoire. Il n'y a aucune raison, comme nous allons avons dit à Issoufou Mahamadou, il n'a qu'à libérer Ham pour l'affronter corps à corps, homme, homme à homme. Pourtant, ils ont peur. Ils savent que nous allons les battre plaisir à eux. Nous allons prendre toutes les dispositions utiles pour que ce qui s'est passé au premier tour ne puisse pas se répéter. Qu'ils libèrent Hama ou qu'ils ne libèrent pas Hama, nous allons battre campagne pour Hama avec ses chaussures, avec sa photo, pour le faire quitter la prison de Filenge pour la présidente de la République.
La naturalisation de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire donne une image triste du pays, a estimé l'opposant ivoirien Pascal Afin Guessan. Les précisions avec John Linden.
Blaise Compaoré devrait avoir le sens de l'honneur et aller au Burkina pour faire rétablir la vérité, a déclaré M. Afin Guessan, estimant honteux que l'ex-président veuille se soustraire à la justice. Ça donne une image triste du système politique de la Côte d'Ivoire, a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse au siège du Front populaire ivoirien, parti fondé par Laurent Gbagbo, qui est actuellement jugé à la Cour pénale internationale. Au plan juridique, estime Afin Guessan, il ne voit pas comment le changement de nationalité peut protéger quelqu'un qui est accusé de crime. La naturalisation de Blaise Compaoré devrait le soustraire d'une éventuelle extradition vers son pays d'origine, car la loi en Côte d'Ivoire ne permet pas d'extrader des ressortissants ivoiriens.
John Lindon, le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzago, a affirmé hier à Paris que seul un recours à la fraude généralisée dans les bureaux de vote permettra au président Idriss Déby Itno de remporter la présidentielle du 10 avril. Plus de précisions avec Eric Manirakiza.
Selon Saleh Kebzago, candidat au scrutin présidentiel, Idriss Déby n'a jamais été élu démocratiquement. Monsieur Kebzabo a affirmé que dans le passé, le président Déby a toujours fraudé les suffrages, mais cette fois, ce ne sera plus possible, a-t-il déclaré hier soir à Paris. Kebzabo estime que les cartes biométriques vont aider à limiter les votes multiples et il ne restera au régime que de manipuler les résultats dans les bureaux de vote. Pour empêcher cela, il appelle donc l'opposition tchadienne à se mobiliser pour être présente dans tous les bureaux de vote. Monsieur Kebzabo a déjà été plusieurs fois ministre du président Déby avant de devenir opposant. Maintenant, il estime que le Tchad vit une situation explosive et qu'en cas de fraude massive, il craint une grave crise post-électorale.
Catherine Samba-Panza, présidente de la transition en Centrafrique, effectue une visite aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain John Kerry lui a rendu hier un hommage appuyé. Des détails avec Morgan Guériac.
John Kerry a fait l'éloge de Catherine Samba-Panza. Selon M. Kerry, elle est sur le continent l'une des trois femmes présidentes à avoir dirigé une transition pendant une période très difficile en Centrafrique. Il a ajouté qu'avec son leadership, les accords de Brazzaville ont été conclus et plus tard, le forum de Bangui, ce qui a aidé à avancer vers une nouvelle constitution et la tenue des élections. Parlant du nouveau président Faustin Archange Touadéra, qui va prêter serment à la fin du mois, M. Kerry a qualifié ce transfert de pouvoir digne d'émulation à travers le continent. Mme Samba-Panza, assez émue, a répondu que sa mission a été de conduire vers des élections. Maintenant que son pays a un nouveau président, a-t-elle ajouté, tous les Centrafricains doivent se mobiliser pour l'aider dans la reconstruction de la RCA. Elle a remercié les États-Unis pour leur soutien continu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Tunisie, c'est la peine capitale pour trois djihadistes condamnés et des dizaines d'autres à des peines de prison ferme pour le meurtre d'un gendarme en 2012. Le point avec Nanif Talani.
Selon Kamel Barbouche, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, 75 condamnations ont été prononcées, dont près de la moitié par contumace. Parmi ces 37 accusés, 3 ont été condamnés à mort pour homicide volontaire à la suite de l'assassinat en décembre 2012 du gendarme Anis Zlassi dans la région de Kasserine, près de la frontière algérienne. Parmi eux, Khaled Chaeb, dit Lokman Abou Saker, chef de la phalange Okba Ibn Nafa, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est accusé aussi par les autorités d'avoir dirigé l'attentat contre le musée de Bardo le 18 mars 2015 qui avait fait 22 morts, dont 21 touristes étrangers et un policier. La nouvelle loi antiterroriste adoptée en juillet a maintenu la peine de mort malgré les appels de plusieurs ONG pour son abolition.
Cela ressemble à une réaction aux sanctions internationales. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui même des missiles à courte portée au large de ses côtes orientales. C'est ce qu'a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense. Cet essai intervient quelques heures après l'adoption mercredi d'une résolution des Nations Unies alourdissant nettement les sanctions contre Pyongyang. Après la décision de l'ONU, les États-Unis ont unilatéralement renforcé leurs sanctions contre la Corée du Nord également mercredi. Ces sanctions concernent 5 personnes et 12 organisations, parmi lesquelles le ministère de l'Industrie, de l'Énergie atomique et la Commission de défense nationale de la Corée du Nord.
Le Comité international olympique a annoncé ce mercredi la création d'une équipe de réfugiés aux Jeux olympiques de Rio 2016. Cette équipe défilera sous la bannière olympique lors de la cérémonie d'ouverture le 5 août. Mélisse Hegel.
L'équipe comprend pour le moment 43 athlètes de haut niveau qui ont été identifiés par le Comité international olympique. Mais entre 5 et 10 athlètes se rendront finalement à Rio. La décision sera rendue en juin lors de la prochaine réunion du comité. C'est lors d'une visite dans un camp de migrants à Athènes que le président du comité, Thomas Bach, avait proposé la création d'une équipe de réfugiés. En décembre, le comité avait déjà identifié 3 athlètes qui ont fui leur pays et qui pourraient prétendre à une qualification pour les Jeux de Rio 2016. Il s'agit d'une nageuse syrienne qui s'entraîne en Allemagne, d'un judoka de République démocratique du Congo, réfugié au Brésil, et d'une iranienne pratiquant le taekwondo et qui s'entraîne en Belgique. La flamme olympique, qui doit être allumée en avril à Olympie, en Grèce, passera par le camp d'Eleonas et sera portée par un réfugié.
L'opposition vénézuélienne, qui contrôle depuis le début de l'année le Parlement, doit annoncer aujourd'hui comment elle compte écourter le mandat du président socialiste Nicolas Maduro, une étape importante du bras de fer institutionnel qui se joue dans ce pays au bord de l'implosion.
Ce pays d'Amérique du Sud traverse une profonde crise politique après la victoire de l'opposition aux élections législatives de décembre dernier, une première depuis 1999.
Ces blocages institutionnels à répétition, Bagassi, entre un gouvernement mené par le socialiste Nicolas Maduro et un parlement dominé par l'opposition, se doublent d'une profonde crise économique dans ce pays pétrolier, asphyxié par la chute des cours du brut, rendant la situation explosive. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Timothée Donangmaye.
La 4G bientôt à la portée des Tunisiens. Les trois opérateurs de téléphonie déjà présents dans leur pays ont décroché mercredi les appels d'offres pour le déploiement du très haut débit mobile pour un montant total de plus de 200 millions d'euros, a indiqué le ministère tunisien des technologies et de la communication. Le crowdfunding pour le bonheur des jeunes couples, au lieu de poser la question parfois embarrassante, pouvez-vous nous aider à financer notre lune de miel? Certains jeunes mariés passent discrètement à leurs proches les liens Internet de leur compte sur GoFundMe, HoneyFund et autres sites de financement participatif. HoneyFund, spécialisé exclusivement dans les lunes de miel, a mobilisé à cette fin 90 millions de dollars en 2015, soit un bond de 50%, a révélé sa fondatrice et PDG, Sarah Margulis. Restons dans le domaine de la high-tech pour signaler un secteur qui monte en flèche ici aux États-Unis, celui des appareils électroniques destinés aux animaux de compagnie. Les Américains ont dépensé en 2015 plus de 60 milliards de dollars pour leurs animaux et se montrent désireux de les gâter. En plus des jouets traditionnels pour chiens, chats et autres perroquets, ils peuvent maintenant acheter Pets Chats, un appareil permettant à votre animal de compagnie de vous téléphoner, ou encore Petsy Tweetcam, qui vous permet de surveiller votre animal à la maison à partir de votre bureau.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Eric Manirakiza. On commence par du football. Hein. Les principaux clubs anglais nient tout projet de Super League européenne.
Les poids lourds du football anglais, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Liverpool, ont nié hier, par l'intermédiaire d'un porte-parole d'Arsenal, envisager la création d'un championnat européen réunissant les principales équipes des grands championnats nationaux. Mi-janvier, le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, avait évoqué la possibilité de voir à l'avenir un championnat européen avec une vingtaine de grands clubs d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne et de France sous l'égide de l'UEFA ou d'une autre organisation dont certains matchs pourraient être disputés en Asie et en Amérique.
Le salaire de Joseph Blatter sera connu en fin mars.
Oui, Bagassi, le salaire de Joseph Blatter n'a jamais été révélé pendant ses 17 ans de mandat à la tête de la FIFA. L'instance a toujours refusé de communiquer le salaire de son président, estimé par certaines sources entre 5 et 10 millions de francs suisses par an. C'est Blatter qui fêtera ses 80 ans le 10 mars, est entré en 1975 à la FIFA comme directeur du développement.
Les boxeurs engagés aux Jeux olympiques de Rio combattront sans casque pour la première fois depuis 1984.
Le Comité international olympique a entériné hier une décision de la Fédération internationale de boxe amateur AIBA datant de 2013. Cette nouvelle règle ne s'appliquera pas par contre aux boxeuses. Un autre changement majeur, Bagassi, est attendu à l'issue d'un congrès extraordinaire fin mai sur une réforme visant à ouvrir les JO en l'ensemble des boxeurs professionnels. Et enfin, avec toi Bagassi, les résultats de la NBA d'hier soir.
Oui, les Bulls s'enfoncent avec cette quatrième défaite consécutive. Hier soir, Chicago a en effet été battu par Orlando, 89-102. Victoire de Charlotte sur Philadelphie, 119-99. Peu de chance pour Portland face aux Celtics de Boston, 93-116. Utah se fait battre par Toronto, 94-104. Houston a pris le dessus sur les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 100 pour Houston et 95 pour les Pelicans. Défaite des Californiens de Sacramento face à Memphis, 98-104. Dans le duel des voisins entre Indiana et Milwaukee, c'est Indiana qui l'a emporté, 104-99. 104 également pour Washington, qui a eu raison de Minnesota, qui a obtenu 98. Et enfin, cette victoire des Spurs de San Antonio, qui affrontait les Pistons de Détroit, 97-81. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagasikoura de nouveau avec vous en direct de Washington. Nous passons maintenant au dossier du jour. Lutte contre Boko Haram. La force multinationale n'a toujours pas lancé d'offensive majeure contre le groupe djihadiste dans la région. Au Niger, l'armée continue de sécuriser la frontière contre cet ennemi invisible. Reportage à Difa de l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinault.
Personne.
À quelques kilomètres de Difa, la garde nationale du Niger patrouille dans le sable. Fusil à l'épaule, la vigilance est de mise. Les combattants de Boko Haram peuvent être n'importe où. Le groupe djihadiste a été fortement diminué, mais la menace demeure, notamment les attaques kamikazes ou encore les mines. Le lieutenant Moussa Daoud Arabiou est commandant de la position d'Assaga.
Oui, on fait extrêmement attention aux mines. Effectivement, nous avons formé nos hommes. Nous avons une unité spécialement pour ça, dès qu'on voit un colis piégé. Donc c'est pour cela, vous voyez, on ne prend pas la route. Dès qu'on voit que le sol est un peu mélangé, c'est suspect, on déborde la route pour éviter de tomber.
La patrouille progresse à pied ou sur des jeeps munis de canons. Nous sommes dans Zenam Kellouri. Les habitants ont commencé à revenir depuis peu dans ce village. Moussa Kadre, lui, n'est jamais parti. Il a 90 ans. Ses enfants lui apportent de la nourriture depuis un camp de déplacés voisins.
Je remercie les forces de sécurité nigériennes. Je n'ai pas bougé du village depuis 4 mois.
L'armée nigériane a su gagner la confiance des populations qui sont les premières sources de renseignements. Une relation cruciale pour gagner cette guerre asymétrique contre Boko Haram qui est juste de l'autre côté de la rivière Komadougou qui sépare le Niger du Nigeria. On retrouve le lieutenant Moussa Daoud Arabiou.
500 mètres juste après les Doumiers que vous voyez, c'est le Nigeria. Certainement là-bas, il y en a des combattants. Nous, on reste côté Niger, on sécurise notre frontière. Maintenant, quand on aura l'autorisation de sécuriser au-delà, on le fera. Tant qu'il n'y a pas présence de l'autorité militaire de l'autre côté, on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des Boko Haram.
Car c'est bien là le problème, l'armée nigériane n'a pas repris définitivement Damasak ou Malam Fatori. Boko Haram peut donc encore mener des incursions dans la région de Difa. Le colonel Abdou Sidikou Issa est chef d'état-major adjoint de l'armée de terre nigérienne. Il nuance la situation.
Bien, on ne les voit pas, mais je peux vous dire que l'armée nigériane est très très active. Elle est en train de manœuvrer. Et je vous dis aussi que nous sommes en étroite collaboration, même si on ne voit pas les actions ensemble. On ne peut pas totalement parler de zone non contrôlée.
L'armée nigérienne dispose d'un droit de poursuite en territoire nigérian, où si une menace directe est détectée, l'ennemi, Boko Haram, n'est pas souvent visible comme dans une guerre traditionnelle. Mais le lieutenant Moussa Daoud Arabiou reste déterminé.
Notre armée, elle est vraiment une armée jeune républicaine qui a l'amour de sa patrie et on ne cédera pas un grain de sable à qui que ce soit, même s'il faut tout y passer.
L'armée garde secret le nombre de militaires nigériens déployés dans la région, mais selon nos informations, ce sont au minimum plus d'un millier de soldats qui assurent la sécurité de la zone. Et Nicolas Pinault, Difa, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger, à Niamey. 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Voilà, direction le Burkina Faso. Le secrétaire général des Nations Unies fait la promesse de soutenir ce pays dans son enracinement démocratique. Ban Ki-moon l'a dit à Ouagadougou où il a entamé hier une visite de 48 heures. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, nous en dit plus.
Le patron de l'ONU a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, et des responsables d'organismes du système des Nations Unies dans la capitale burkinabé. Dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou, où il s'est entretenu une vingtaine de minutes avec Alpha Barry, Ban Ki-moon a salué le courage des autorités et du peuple burkinabé pour avoir su, après l'insurrection populaire qui balayait Blaise Compaoré du pouvoir, résister au putsch manqué de septembre dernier pour enfin tracer à travers des élections exemplaires une nouvelle voie pour le pays. Le secrétaire général de l'ONU ne s'est pas directement adressé à la presse, mais il a cependant exprimé au ministre burkinabé des Affaires étrangères sa volonté d'aider le Burkina Faso à consolider ses acquis démocratiques.
Nous étions très préoccupés par la situation à cause de l'état militaire. Nous sommes très ouverts.
Compte comptait sur un secrétaire général de l'ONU dont la visite est diversement appréciée par le citoyen lambda, pour qui cela devrait cependant être un signal fort à l'endroit de tous les partenaires et bailleurs de fonds du Burkina Faso à faire confiance à un pays renaissant.
Moi je pense que la venue de Ban Ki-moon au Burkina Faso démontre déjà un grand pas dans l'avancée de la démocratie au Burkina Faso. La venue de Ban Ki-moon est une avancée dans la politique du Burkina Faso aussi sur le plan économique pour une jeune démocratie burkinabé qui vient de commencer après ce qu'on a vécu au Burkina Faso.
Lui-même, il va s'imprégner des réalités du Burkina. Désormais, on pourra aussi compter sur le soutien de l'ONU afin de remettre le pays sur le bon rail.
Pour nous, en tant que Burkinabé, c'est de voir qu'est-ce que ça va apporter à la population déjà. Sinon, ça, ce sont des relations diplomatiques.
Au programme de cette visite de haut niveau du patron de l'ONU, des échanges avec les fonctionnaires du bureau du système des Nations Unies à Ouagadougou, des visites d'infrastructures socio-sanitaires et une audience au cours de cette matinée de jeudi avec le président du Faso, Rochemarc Christian Kabore. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Le sous-secrétaire d'État adjoint américain au Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, Stephen Feldstein, rentre d'une visite en RDC. Il y a rencontré notamment des représentants de la société civile, de l'opposition et du gouvernement, Lionel Gaïman.
Lors de sa visite en RDC, le sous-secrétaire d'État adjoint au Bureau de la démocratie a concentré ses efforts sur la liberté d'expression et le bon déroulement des élections à l'approche de la présidentielle.
Premièrement, c'était pour encourager toutes les parties, surtout le gouvernement, à organiser des élections paisibles et dans les délais requis, comme l'exige la Constitution. Deuxièmement, c'était pour parler à plusieurs acteurs concernés afin de s'assurer qu'ils seront en mesure de participer au processus et d'exercer leur liberté d'expression. Et enfin, de s'assurer que toutes les parties seront capables d'opérer de manière pacifique et non violente.
Monsieur Feldstein a rappelé l'attachement des États-Unis au principe du respect de la Constitution en matière électorale.
Nous craignons un retard dans la préparation nécessaire aux élections qui doivent avoir lieu en novembre, comme prévu par la Constitution, et ce qui permettrait alors de succéder à Kabila à la présidence en décembre, comme le dit également la Constitution. Et donc, tout d'abord, il y a un problème technique de logistique pour permettre une bonne préparation de ces élections très compliquées dans l'un des plus grands pays d'Afrique. L'une de nos plus importantes préoccupations aussi, la question de l'espace politique. Nous avons vu de nombreuses arrestations et détentions arbitraires. Les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer politiquement comme ils ont besoin de le faire et nous suivons de très près de nombreuses détentions.
M. Feldstein a précisé que lors de sa visite, notamment, des déclarations officielles ont été faites pour la libération immédiate des prisonniers politiques et que l'émissaire spécial pour la région des Grands Lacs et l'ambassadeur américain continuer de lancer des appels au gouvernement congolais pour leur libération. Quant à la question de savoir si Joseph Kabila souhaitait se représenter pour un nouveau mandat et quelle serait la position de Washington si le cas se présentait, il a répondu.
Comme la Constitution le stipule clairement, les mandats sont limités à deux termes. Donc, à moins d'une modification de la Constitution qui permettrait un autre mandat, ce que nous ne soutenons pas du tout, je pense qu'une candidature de M. Kabila ne serait pas reconnue légalement par la loi en vertu de la Constitution. Par conséquent, parce que nous soutenons les constitutions et un processus juridique légitime, ce ne serait pas quelque chose que les États-Unis soutiendraient.
M. Feldstein s'est également exprimé sur le Burundi, disant que la crise dans ce pays voisin de la RDC démontre vraiment ce qui peut arriver quand une personne se croit plus importante qu'un processus électoral démocratique et décide de mettre ses intérêts au-dessus de ceux du pays. Pour rappel, il est reproché au président Pierre Nkurunziza de n'avoir pas respecté les accords d'Arusha. M. Feldstein a par ailleurs exprimé la même préoccupation au sujet de la République du Congo, où le président Denis Sassou Nguesso pourra se présenter à un nouveau mandat grâce à un référendum. Le sous-secrétaire d'État adjoint au Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail a notamment estimé que les femmes devraient être mieux représentées dans la sphère politique pour parfaire le processus démocratique en Afrique.
The more that we can encourage women to run for political office.
plus, nous pouvons encourager les femmes à se présenter aux élections, à participer au vote, pour faire partie de la vie politique, mieux nous nous porterons. Je pense que cela est lié aussi à l'élévation du niveau d'éducation des filles et des femmes, afin qu'elles puissent faire partie de ce processus. Donc, j'ai grand espoir et ceci est quelque chose que nous pouvons continuer à encourager et à soutenir, mais je sais que nous sommes encore loin de là où nous devons être.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
C'est dans 24 heures que va s'ouvrir au Congo-Brazzaville la campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars. Les candidats de l'opposition et leurs partisans se plaignent que seul le candidat Denis Sassou Nguesso, le président sortant, a accès aux antennes de la radio et de la télévision publique malgré les appels à l'ordre de l'autorité de régulation des médias. Retrouvons notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Plus que 24 heures et s'ouvre la campagne officielle de l'élection présidentielle. Mais déjà, les candidats de l'opposition se plaignent de ne pas accéder aux médias publics. Hervé Maïka, de l'équipe de campagne du général Mokoko.
Mais les médias ne sont pas du tout libres parce que les médias publics sont phagocytés par un seul candidat qui y est du matin au soir. Les autres ne sont même pas invités lorsqu'ils ont des activités. Il n'y a même pas au journal télévisé. Et cela aussi fait partie des choses qu'il faut changer. Là, c'est la vision du général. Il faudrait faire de Télé-Congo une chaîne autonome qui est gérée par un conseil d'administration dont les gens sont désignés de manière disparate. Ce n'est pas à l'État de phagocyter une chaîne et d'en faire une espèce de haut-parleur du pouvoir.
Même constat pour l'opposant Clément Mirassa.
Télé-Congo, tous les radios Congo, c'est beaucoup plus les médias de propagande et du pouvoir en place que des véhicules de l'information ou des idées de l'opposition. Comment ça va se faire? Je ne sais pas si ça peut s'arranger. Mais la campagne électorale ne se prépare pas seulement pendant la période de la campagne électorale. C'est de façon permanente que l'on doit pratiquement réagir, informer.
De quoi penser que les candidats de l'opposition n'ont pour issue que la presse écrite locale et les médias internationaux? Et pourtant, Philippe Onvo, autorité de régulation des médias congolais, ne manque pas de recadrer le rôle de chaque média en ce temps de campagne électorale.
Deux principes cardinaux président à cette disposition, à savoir l'équité en période hors électorale et préélectorale, c'est-à-dire maintenant, et l'égalité à compter du jour de la publication de la date officielle de la campagne.
Plusieurs fois incriminé, Jean Obambi, directeur général de la télévision nationale, trouve les mots pour se défendre.
Il est que normal que nous qui sommes à la charge du public, pour le travail si compétitif et surtout difficile, qu'on nous jette tout naturellement des pierres lorsqu'on est en face de grandes situations comme celles qui se prévalent maintenant.
L'électoral exige l'équilibre dans le traitement des informations de différents candidats pendant la campagne électorale qui s'ouvre demain vendredi. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Voilà, donc c'était donc notre correspondant à Brazzaville. C'est tout donc pour cette édition. Michel Joseph était à la réalisation, Darrell Smith à la console technique. Présentation Bagassi Koura et Michel Joseph. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et aussi grâce à notre page Facebook. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.